Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Le Triduum Pascal se poursuit à Rome avec l'Office de la Passion du Seigneur qui a été présidé à 17h par le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales. Pour la deuxième fois de son pontificat, c'est le pape François lui-même qui a écrit les méditations qui égrèneront les 14 stations de la Via Crucis au Colisée dans la soirée du vendredi. Un nouveau jeudi saint passé auprès des prisonniers pour le pape qui s'est rendu en début d'après-midi du jeudi à la prison romaine Regina Coeli pour y saluer des détenus. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira également en Côte d'Ivoire. Et dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'ancien ministre et banquier international Tidjane Thiam a été élu jeudi candidat du principal parti d'opposition pour la présidentielle du 25 octobre. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent avant de suivre la méditation avec les lectures de la vigile pascale. Et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre invité du jour, Yuba Sokona, le directeur exécutif de l'Institut africain pour l'énergie durable et l'analyse de systèmes.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Poursuite du Triduum Pascal à Rome avec l'Office de la Passion présidé à 17h par le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales, et le traditionnel chemin de croix au Colisée qui sera présidé par le cardinal Baldo Reina, vicaire général du diocèse de Rome, à 21h15. Pour la deuxième fois de son pontificat, c'est le pape François lui-même qui a écrit les méditations qui égrèneront les 14 stations de la Via Crucis. Si le Saint-Père n'y participera pas physiquement, ces méditations rappellent la descente que Jésus a faite vers notre monde, celui que Dieu aime. Dans le Christ qui tombe sur son chemin de croix, le ciel s'abaisse et se met à notre portée, à la portée des pécheurs. Plus de détails avec Jean-Benoît Harel.
Le Christ est le sauveur de notre terre, explique le pape François alors que Jésus tombe pour la troisième fois. Pour les 14 stations, le Saint-Père propose une méditation sur l'attitude de Jésus qui donne son ultime témoignage d'amour pour l'humanité. Le chemin de croix devient alors le lieu de naissance de la nouvelle Jérusalem. Jésus n'a pas eu peur de tomber, de montrer sa faiblesse. Un exemple profondément humain éloigné de notre monde, fait de calculs et d'algorithmes, de logiques froides et d'intérêts implacables. Se tourner vers le Christ, c'est changer de cap et de rythme, c'est revenir à la maison, explique l'évêque de Rome. De l'Exode à la Terre Nouvelle, le Christ est venu changer le monde et il nous encourage à suivre sa trace, poursuit le pape. Une trace qu'on retrouve chez les plus petits et chez les plus humbles, qui seront représentés par les différents porteurs de la croix, des personnes handicapées, des migrants, des malades, pour ce vendredi saint au Colisée. Descendu de la croix, Jésus est encore présent parmi ceux qui espèrent encore, parmi ceux qui ne se résignent pas à penser que l'injustice est inévitable, assure François qui propose aux fidèles de demander à Dieu la paix du Shabbat. Alors que nous multiplions nos occupations pour fuir la réalité de la mort que le Christ vit en ce vendredi saint, le Saint-Père propose à chacun de s'arrêter et d'entrer dans l'attente de la résurrection.
Merci Jean-Benoît. Nous reviendrons dans les détails sur le déroulement de l'Office de la Passion et du chemin de croix au Colisée dans notre prochaine édition. Et pour le samedi saint, la messe de la vigile pascale sera présidée à 19h30 dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Giovanni Battista Re, le doyen du collège cardinalis, délégué par le Saint-Père. Vous aurez donc la possibilité de suivre toutes ces célébrations via notre site internet www.vaticannews.va, mais aussi via YouTube et Facebook. Un nouveau jeudi saint passé auprès des prisonniers pour le pape qui s'est rendu dans l'après-midi à la prison romaine Regina Coeli pour y saluer des détenus. Une visite qui n'était pas au programme officiel du souverain pontife, toujours convalescent, mais qui témoigne de sa proximité avec les détenus. Olivier Bonnel.
Le jeudi saint, j'ai toujours aimé venir à la prison pour laver les pieds comme Jésus. Cette année, je ne peux pas le faire, mais je peux et je veux être proche de vous. Je prie pour vous et vos familles, a confié François aux prisonniers. 70 hommes de plusieurs nationalités âgés de 20 à 65 ans, avec lesquels il a passé une demi-heure. Des détenus pour certains très émus qui ont accueilli le pape avec des cris et des applaudissements. Plusieurs fois, les gardiens ont dû appeler à l'ordre et au silence dans cette grande rotonde de la prison, qui est aussi la chapelle de cet établissement pénitentiaire. Nous avons de la chance, tu imagines, les gens ne le voient pas dehors et il vient nous voir ici, a lancé un détenu à l'un de ses voisins. La plupart de ces prisonniers portaient un chapelet autour du cou et parfois une Bible à la main. François leur a aussi offert des chapelets que certains ont promis de donner à des proches une fois sortis de prison. Ferdinando, lui, était très ému. Il avait écrit un billet avec ces lignes qu'il a donné au pape. « Que la lumière du Seigneur puisse illuminer ma vie et celle de ma famille. Merci, pape François, de nous avoir daigné de votre présence. » Cette présence en prison, François y tenait particulièrement. Il avait déjà visité Regina Cheney en 2018 lors du Jeudi Saint. Cette visite a une portée énorme, elle exprime la préoccupation d'un père envers des personnes en difficulté, a confié l'aumônier de la prison à l'issue de cette rencontre. Le pape ne voulait pas passer Pâques sans faire ce qu'il portait concrètement dans son cœur.
Merci Olivier. Et dans la soirée du jeudi, c'est depuis l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre dans la basilique Vaticane que la messe In Cena Domini s'est déroulée jeudi 17 avril en ouverture du Triduum Pascal. Elle a été présidée par le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique et vicaire du pape pour la cité du Vatican, qui a procédé au traditionnel rituel du lavement des pieds en mémoire du geste de Jésus lors de son dernier repas avec les disciples. Dans son homélie, le prélat a souligné que malgré le contexte mondial marqué par une dynamique qui pousse inéluctablement à la guerre, aujourd'hui comme hier, Jésus aime, car la seule chose qui l'intéresse, c'est l'amour. Et c'est le sacerdoce a poursuivi l'archiprêtre. Pour le cardinal, Jésus est ainsi le modèle sacerdotal qui doit inspirer tous les fidèles, mais particulièrement les prêtres, appelés à participer à la mesure universelle de l'amour. Et la nouveauté vient de l'Eucharistie en devenant nous-mêmes Eucharistie, a encouragé le cardinal Gambetti. À l'initiative de la Commission électorale indépendante, CEI, une rencontre d'information et d'échange s'est tenue mercredi 16 avril à Abidjan-Cocody entre les membres de la dite institution et les guides religieux de Côte d'Ivoire. Cette réunion avait pour objectif de les sensibiliser sur le déroulement du processus électoral et de solliciter leur appui spirituel pour la réussite des échéances à venir. Alors que la présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas, la CEI fait face à une vague de critiques provenant de divers secteurs, sociétés civiles, partis politiques de l'opposition et même certaines figures religieuses. Ces voix s'interrogent notamment sur l'indépendance réelle de l'organe électoral et la transparence de son fonctionnement. Suivons à ce propos les précisions de Marcel Ariston-Blay.
Dès l'ouverture des travaux, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cubière, a salué le rôle apaisant joué par les guides religieux au fil des années. Ainsi, dans son discours, il a tenté de lever les zones d'ombre qui planent sur le fonctionnement de l'institution en évoquant notamment la désignation des membres de la commission centrale, ses mécanismes internes de gouvernance ainsi que les modalités d'une éventuelle révision ou d'un audit de la liste électorale. Il a souligné que la CEI est composée de représentants issus de divers horizons politiques et sociaux afin de garantir un équilibre et une représentativité dans la prise des décisions. Le président de la CEI a en outre invité les guides religieux à intensifier leurs prières afin de ramollir les cœurs et d'éviter que le pays ne replonge dans une nouvelle crise.
Nous ne pouvons la réussir qu'avec vous, avec vos prières. Quand il y a une difficulté à laquelle la société est confrontée, on sonne Dieu, on s'incline à Dieu. Je voudrais vous inviter à cela.
À l'issue de son intervention, plusieurs guides religieux ont salué l'initiative de la CEI. Certains ont exprimé le souhait d'un dialogue plus inclusif avec les partis politiques. S'exprimant au nom de la communauté musulmane, le cheikh Aïma Ousmane Diakité a dénoncé la présence des partis politiques au sein de la CEI, estimant que leur nature fondamentalement partisane est incompatible avec l'impartialité requise dans la gestion électorale.
Je voudrais terminer par dire que pour la population ivoirienne, il y a une ligne rouge pour moi. La ligne rouge là, c'est la violence. Quel que soit tout ce qui va se passer là, ils n'ont qu'à discuter. On ne veut pas de violence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués.
Marcel Ariston-Blay, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Restons en Côte d'Ivoire, en tête de cette page, où l'ancien ministre et banquier international Tidjane Thiam a été élu jeudi candidat du principal parti d'opposition pour la présidentielle du 25 octobre dans le pays, lors d'une convention à laquelle il était le seul à se présenter. Mais tout n'est pas gagné pour autant. Actuellement hors du pays, M. Thiam, 62 ans, est bousculé par une polémique sur sa nationalité qui pourrait le fragiliser dans sa course à la présidence. Dans le même temps, à 6 mois du scrutin dans le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest francophone, des tensions secouent le paysage politique, notamment liées à l'inéligibilité de 3 opposants, dont l'ancien président Laurent Gbagbo. La Banque centrale égyptienne a annoncé jeudi une baisse de ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2020, quelques jours après l'annonce par le gouvernement d'une réduction des subventions au carburant. La Banque centrale d'Égypte a abaissé ses taux d'intérêt de 225 points de base, dont le taux des dépôts au jour le jour, qui s'établit désormais à 25%, souligne un communiqué de l'institution. Elle évoque une reprise de l'activité économique pour le 4e trimestre consécutif et une baisse de l'inflation à son plus bas niveau en 3 ans. La semaine dernière, les autorités égyptiennes ont augmenté les prix des carburants pour la 4e fois en 1 an. Dans la poursuite de ce tridôme pascal, écoutons à présent le père jésuite Eric Goé Akwe qui nous introduit à la méditation avec les lectures de la vigile pascale.
Frères et sœurs bien-aimés, la paix du Christ. Ce soir, une question résonne comme un éclair dans notre nuit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Une question qui nous bouscule, nous aussi. Disciples du 21e siècle, les femmes cherchent Jésus dans un tombeau, mais Dieu les renvoie vers la vie. Et nous, où cherchons-nous l'espérance aujourd'hui? Les femmes venues embaumer un cadavre découvrent l'impensable, la pierre roulée, les linges abandonnés, ce corps absent qui devient présence vivante. Comme elles, combien de fois cherchons-nous Dieu là où il n'est plus? Dans nos habitudes religieuses sans vie, dans nos certitudes qui rassurent, dans nos tombeaux intérieurs de peur ou de découragement. Pourtant l'ange nous redit, rappelez-vous sa parole. La mémoire de la promesse devient lumière. La mort n'a pas le dernier mot. Nous sommes invités à nous rappeler. Le Christ a vaincu la mort. Nos échecs, nos deuils, nos péchés ne sont pas des impasses. La résurrection est l'espérance inébranlable. Avec Dieu, le dernier mot n'est jamais la tombe. Le siège pascal illumine nos obscurités. Regardons autour de nous. Un monde de tombeaux, des guerres qui broient des vies, des familles déchirées, des rivalités qui empoisonnent nos communautés. Nous en parlons, oui. Nous vivons dans un monde où la haine semble souvent plus forte que l'amour, où la mort, physique ou spirituelle, frappe tant d'hommes et de femmes. Nous dénonçons facilement ces maux, mais où sommes-nous vraiment dans ces combats? Le ressuscité nous demande ce soir. Avons-nous déjà essuyé les balles avant de juger ceux qui prônent la fin des conflits? Nous parlons de violence juste, mais avons-nous déjà subi cette violence? Avons-nous tendu la main à un ennemi avant de prôner la réconciliation? Avons-nous partagé nos biens avant de dénoncer les injustices? Pourtant, au milieu de ces ténèbres, des témoins existent qui montrent que le Christ agit. Ces mères qui pardonnent aux meurtrières de leurs enfants, ces jeunes qui bâtissent la paix, ces communautés qui accueillent les exclus, ces gestes de résurrection ne naissent pas dans des lieux extraordinaires, mais justement là où la vie semble la plus ordinaire, là où l'amour s'incarne, en actes simples mais prophétiques, dans des zones de guerre, dans les familles divisées, dans les communautés humaines fragmentées. Chaque fois qu'un geste brise la logique de violence pour tisser de la fraternité, le tombeau s'en trouve à nouveau. Le Christ ressuscité ne nous demande pas de répéter des mots, mais de faire la vérité par des gestes qui déchirent les ténèbres, visiter un prisonnier, tendre la main à un migrant, risquer la paix quand la haine semble plus forte. Chers frères et sœurs, ce soir, le siège pascal n'est pas un symbole, c'est un feu qui embrase nos vies. Comme le dit le pape François, la foi est une flamme qui grandit quand on la partage. Ne repartons pas comme avant. Le Christ est ressuscité, alors debout. Debout pour aimer quand la haine semble gagner. Debout pour espérer quand tout semble perdu, debout pour annoncer par nos vies transfigurées qu'il est vivant et nous vivons par lui. Amen. Alléluia.
Le changement climatique était au cœur d'une conférence internationale qui a pris fin mercredi au Djibouti. Experts, chercheurs, scientifiques et acteurs de la société civile sont venus de partout pour y participer. Au cours des interventions, l'accent a été mis sur le rôle central de la recherche scientifique dans la compréhension des phénomènes climatiques. L'urgence d'agir face aux effets dévastateurs de ces bouleversements a été également évoquée. Yuba Sokona, directeur exécutif de l'Institut africain pour l'énergie durable et l'analyse de systèmes, s'est prononcé entre autres sur les extrêmes climatiques.
On vit des extrêmes climatiques un peu partout. Sur le continent, on le ressent qu'il y a une augmentation de la température moyenne. Ensuite, on a connu également des inondations un peu partout il y a quelques mois. Les extrêmes sont devenus une certaine fréquence et on se rend compte également que dans beaucoup de pays, et surtout dans le contexte africain, que l'agriculture se trouve dans des difficultés à cause de problèmes de manque d'eau. Et puisqu'on connaît également dans le continent africain des problèmes de fourniture d'électricité, notamment beaucoup de délestage, ceci n'est pas simplifié les choses. Et les pays africains pensaient pouvoir obtenir des financements pour se mettre sur la trajectoire d'un développement sobre en carbone, mais ceci tarde à se matérialiser. Le contexte actuel n'est pas favorable à cela. Et si on y ajoute le dernier événement qui est en train de contrarier beaucoup d'initiatives dans le domaine des changements climatiques, notamment l'élection de Trump aux États-Unis.
On parle de changement climatique. Qu'en est-il de la Corne de l'Afrique?
La Corne de l'Afrique connaît des événements extrêmes, notamment la sécheresse, qui a un impact assez important sur les écosystèmes et également sur la vie des populations, surtout ceux qui sont dans l'élevage et l'agriculture. Selon les rapports de la FAO et selon certains rapports également du secrétariat de la Convention sur la désertification, tous les pays qui sont confrontés à des sécheresses et puis à des stress hydriques, ceci peut amener jusqu'à une réduction de 10% de leur budget.
Sur le continent africain, on note l'urgence d'agir face aux effets dévastateurs du changement climatique. En ce qui concerne la recherche scientifique, quel constat faites-vous aujourd'hui?
Il se trouve que dans le contexte africain, le domaine de la recherche connaît un financement relativement limité, sinon inexistant. Parce que les travaux de recherche qui se déroulent en Afrique par les Africains, c'est en marge ou c'est en accompagnement des programmes de recherche des pays industrialisés. Pour vous donner une idée, en 2022, les pays de l'OCDE ont consacré 1 500 milliards d'euros à la recherche. Et une bonne partie de cela sur les questions de changement climatique. La même période, en Afrique, on a consacré 9 milliards de dollars. Et les problèmes sont les plus pressants, les plus prégnants dans le contexte africain. Il y a peu d'informations, il y a peu de recherches scientifiques, il y a peu de production scientifique. Ce qui fait que les pays, les politiques que l'on essaie de mettre en place balbutient quelque peu. Ensuite, les pays sont obligés également, les politiques sont obligés de naviguer entre la résolution des problèmes immédiats, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, faire face aux problèmes de santé, faire face à l'éducation, faire face également à un certain nombre de conflits, notamment dans le domaine du Sahel. Et s'attaquer au problème du climat avec des financements limités, ceci pose un problème.
Vous venez de suivre Yuba Sokona, directeur exécutif de l'Institut africain pour l'énergie durable et l'analyse de systèmes. Il répondait aux questions de Myriam Sanduno.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.